comme obstétricien gynécologue, je le vois un peu, la popularité grandissante là, au niveau de la physiothérapie périnéale. Puis quand j'ai commencé ma pratique, je dirais qu'il y avait beaucoup moins de patientes qui étaient au courant, qui étaient renseignées sur la physiothérapie périnéale. J'en ai de plus en plus qui vont prendre les devants, qui vont y aller par elles-mêmes. Puis je pense qu'il faut que ça continue dans cette voie-là.
Ce balado est présenté par la Société de services financiers Fonds FMOQ, qui vous rappelle que vivre en santé, ça commence maintenant.
Nous revoici pour un nouvel épisode du balado Santé sans rendez-vous de la Faculté de médecine de l'Université Laval pour parler d'un sujet aujourd'hui qui m'a touchée et qui est encore, somme toute, récent en moi, qui a généré évidemment beaucoup d'émotions et beaucoup de changements dans ma vie. En l'occurrence, l'accouchement et le périnée. Quelle belle expérience! Et bien, pour nous en parler, je suis très contente de les recevoir aujourd'hui. D'abord, permettez-moi de vous présenter Stéphanie Bernard, qui est stagiaire postdoctorale à l'Université de l'Alberta, physiothérapeute en rééducation périnéale, chez Clinique de physiothérapie PCN. Elle est responsable de cours également et chargée de session clinique au département de réadaptation de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Stéphanie, bonjour!
Et bonjour!
Bienvenue dans ce nouvel épisode du balado. Et à mes côtés également, Sarah-Maud Bernatché-Laflamme, qui est gynécologue obstétricienne à l'hôpital Hôtel-Dieu de Lévis, chargée d'enseignement clinique au département d'obstétrique et gynécologie de la Faculté de médecine de l'Université Laval. Et elle est également endocrinologue à la reproduction. Docteur Laflamme, bienvenue!
Merci beaucoup, bonjour!
Je veux discuter avec vous, évidemment, de tout ce qui a trait au périnée, à l'accouchement, à la préparation, au postpartum également. Mais d'abord et avant tout, je veux connaître la raison pour laquelle vous avez choisi votre domaine professionnel. On va commencer avec Stéphanie.
Oui, merci. Eh bien, c'est certain que ce n'est pas tous les physiothérapeutes qui s'intéressent à ce domaine-là. Quand on pense physiothérapeute, on pense médecine du sport, on pense j'ai mal au dos, je vais aller voir mon physio. Donc, aller voir son physio du périnée, c'est quand même une pratique qui est peut-être moins commune, mais je dirais qu'il fait de plus en plus d'adeptes. Pour ma part, j'ai fait mes études à l'Université McGill, il y a de cela une bonne vingtaine d'années. Et puis, j'avais la chance d'avoir une enseignante qui venait nous présenter le sujet. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Là, je me suis immédiatement vue dans ce métier-là. J'ai terminé ma formation physiothérapeute. Je suis allée chercher les cours et j'ai commencé ma pratique là, tout de suite. Là, la santé des femmes, ça a été un coup de cœur.
Et ça fait combien de temps que cette spécialité-là existe ou du moins est reconnue? Vous dites que bon, vous avez fait vos études il y a de cela 20 ans, c'est une vingtaine d'années. Ça fait-tu plus longtemps que ça?
Il y avait quelques physiothérapeutes dans les années 90. Là, c'était très émergent comme pratique. Mais vu le caractère, je pense, très intime de la pratique, ça n'a pas tout de suite fait beaucoup d'adeptes. Mais dans les années 2000, c'est là où on a vraiment vu une effervescence. Là, les données de recherche venaient appuyer grandement ce travail-là, l'efficacité de la réadaptation. Et puis là, à partir de 2010, ça a vraiment été exponentiel. Avec les formations plus avancées, on a vu vraiment un intérêt se développer. Et là, je pense qu'on est plus de 500 physiothérapeutes au Québec à avoir cette pratique. Donc, il y a eu vraiment une montée exponentielle là, pour cette pratique-là.
Docteur Laflamme?
Ben moi, dès ma médecine, j'ai toujours aimé le côté bébé, grossesse, depuis toujours. Puis quand j'ai commencé ma médecine, je pensais plus aller vers la pédiatrie. Finalement, bon, j'aimais beaucoup tout le côté accouchement et tout ça, mais j'aimais aussi, parce que pour les accouchements, il y a actuellement aussi les médecins de famille qui vont faire des accouchements. Et j'aimais beaucoup le volet chirurgical qui m'amenait plus avec la gynécologie, fait que je trouvais qu'il y avait beaucoup de diversité au niveau de la pratique, autant médicale que chirurgicale. Fait que c'est vraiment ça qui m'a apporté vers la gynécologie obstétrique. Dans mon cas, j'ai un membre de ma famille qui est physiothérapeute spécialisé en rééducation périnéale. Donc, pour moi, ça fait plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant, que je sais que cette spécialité-là en physiothérapie existe. Et c'était clair que moi, lorsque je tombais enceinte, j'allais prendre rendez-vous avec ma belle-sœur, bon, pour ne pas la nommer, pour justement me préparer à mon accouchement et la suite également. Mais quand je parlais de cette spécialité-là, de la physiothérapie aux gens de mon entourage, les gens étaient comme « En rééducation, quoi? » J'ai comme l'impression que c'est pas si connu que ça. Et pourtant, je veux dire, ça, en tout cas, moi, ça a changé ma vie là, de pouvoir être suivie par une physiothérapeute spécialisée en rééducation périnéale. Quand on parle justement de cette spécialité-là, on parle de quoi?
Ah, bonne question, parce que c'est vrai qu'on est un peu méconnu, puis je pense que la raison, c'est pour le type de problème qu'on traite. Hein. Si on voit un physiothérapeute en rééducation périnéale, eh bien, on va voir un physiothérapeute qui a une formation supplémentaire pour évaluer le plancher pelvien, donc les muscles qui se situent au niveau du bassin. C'est des muscles qui favorisent la continence urinaire, la fonction sexuelle, la continence fécale. Donc, c'est certainement des problèmes que peut-être on n'a pas le goût de parler à notre voisin ou même parfois même des amis très proches parce qu'on s'en va dans l'intimité. Mm-hmm. Donc, c'est une spécialité où le physiothérapeute développe des habiletés, développe une expertise pour prévenir ces problèmes-là, pour les traiter. Mais effectivement, c'est souvent des sujets qui sont un peu tabous. Donc, ça permet pas de faire connaître la profession à très large échelle, malgré le fait que c'est des pratiques qui sont très efficaces et recommandées en première ligne, là.
Et j'ai l'impression aussi que quand j'en entendais parler autour de moi, les gens savaient que ça se pouvait après l'accouchement, mais en amont, en préparation à l'accouchement, on dirait que ça, c'est encore moins connu. Ça se peut-tu?
Ça se peut, certainement. Souvent, les gens pensent peut-être venir lorsque les problèmes sont là, mm-hmm. puis qu'ils ne sont pas partis tout seuls, si on veut, mais on peut faire beaucoup de travail en prévention. Et bon, c'est toujours plus efficace d'empêcher les pauses cassées que de les réparer, là.
Oui, absolument. Et c'est quoi les enjeux ou encore les questionnements, les craintes, les questions qu'on retrouve le plus souvent pour les femmes enceintes qui décident de consulter en rééducation périnéale?
Bien, c'est certain que pendant la grossesse, les femmes enceintes peuvent avoir toutes sortes d'inquiétudes, là, mais celles qu'elles vont partager le plus fréquemment avec leur physiothérapeute, je pense que ça va être vraiment le souci de, premièrement, là, de ne pas faire quelque chose de pas correct pendant la grossesse, qui pourrait les nuire à long terme, pas faire quelque chose qui va briser leurs abdos, quelque chose qui va nuire à leur plancher pelvien. On va entendre aussi la peur de la déchirure pendant l'accouchement, la récupération. Je dirais que de façon globale, là, la crainte de que leur corps soit très brisé par l'expérience de l'accouchement, puis que ça sera peut-être pas récupérable. Donc, il y a cette peur-là là, qui revient beaucoup pendant la grossesse.
Et au niveau du Canada et du reste du monde, comment on se situe au Québec au niveau de la rééducation périnéale en termes de connaissances, en termes aussi de, entre guillemets, popularité, là?
Ah, bien, on est chanceux au Québec parce qu'on est vraiment très bien desservi en physiothérapie rééducation périnéale. J'irais jusqu'à dire qu'on est des leaders mondiaux. De par le fait qu'on a des chercheurs qui sont, dans le fond, vraiment bien implantés à l'échelle internationale. Donc, ça fait qu'on a des formations très avancées, des formations de grande qualité. On a même une attestation là, universitaire pour la formation des physiothérapeutes en rééducation périnéale à l'Université de Montréal. Donc, on a vraiment des enseignants de grande qualité, ce qui fait que vraiment, sur l'échelle internationale, on a probablement parmi les meilleurs physiothérapeutes, là. Donc, on est pas mal chanceux.
Allons dans le concret de la chose. Je suis enceinte et là, je décide d'aller consulter en rééducation périnéale avant mon accouchement, donc pendant ma grossesse. À quoi ça sert d'aller consulter avant d'accoucher? Qu'est-ce qu'on va faire concrètement? C'est quoi le suivi qu'on a en amont de son accouchement?
Bien, dans le fond, comment je vais présenter ça à une patiente qui me consulte puis qui vient, qui n'a pas nécessairement de problématique déjà là? Bien, je vais lui présenter son accouchement un peu comme un marathon puis qu'on veut préparer son corps pour sa plus grande épreuve là, à venir. Donc, on va évaluer physiquement la paroi abdominale, les muscles du plancher pelvien. Est-ce qu'on a des muscles qui sont en forme actuellement ou on observe des déficits, des petits signes que la grossesse est exigeante puis que là, les muscles s'épuisent face à ce travail-là? ballon. Donc, on va donner un plan de match pour s'assurer qu'on prépare le corps puis qu'on l'amène à être un niveau de fonction qui est optimal pour l'accouchement et pour récupérer le plus rapidement par après. On va donner un programme d'exercice des muscles du plancher pelvien de manière préventive parce qu'on le sait, c'est que si ces muscles-là ont un bon entraînement pendant la grossesse, eh bien, on diminue le risque d'avoir de l'incontinence urinaire pendant la grossesse, mais aussi après. Mm-hmm. Donc, les impacts de ce programme-là sont quand même assez importants, puis les données sont assez convaincantes, là. Donc, on sait que si on le fait, on augmente vraiment nos chances de protéger notre système urinaire pendant la grossesse et par rapport à après. Donc, on va évaluer la capacité physique. On va essayer de dépister s'il y a des déficits là, au niveau musculaire, puis s'il y en a, donner un programme pour les réadapter. Mais s'il n'y en a pas, on veut vraiment aller plus dans la prévention à ce moment-là. Puis, je dirais peut-être un dernier volet, c'est qu'on va faire du dépistage au niveau de l'activité physique. C'est important de bouger dans la grossesse, mmh. puis ce n'est pas tout le monde qui se sent bien de bouger dans la grossesse. Donc, on va tenter d'accompagner les femmes pour qu'elles soient actives dans la grossesse, puis de répondre à leurs questions là, par rapport à ce qu'elles peuvent faire également là, pour se préparer de manière physique là, pour l'accouchement.
C'est vrai qu'il ne faut pas faire de course à pied pendant qu'on est enceinte. Je l'ai tellement entendu, cette phrase-là.
Non, il n'y a pas de données qui démontrent qu'il y a des effets néfastes là, de faire la course à pied dans la grossesse. Dans le fond, n'importe quel sport qui n'a pas un risque élevé de chute peut être fait de façon sécuritaire, surtout si on connaît bien le sport. Donc, peut-être une maman qui n'a jamais couru et qui, à 27 semaines de grossesse, décide qu'elle se met à courir, bien là, c'est peut-être pas le meilleur choix. Généralement, on veut y aller de façon plus progressive, mais quelqu'un qui est à l'écoute et puis qui va continuer son sport de manière adaptée à sa condition. Donc, on n'est plus dans l'entraînement puis la performance, oui. On est dans l'activité physique. Donc, on va plutôt discuter de comment adapter son sport pour sa condition qui change là, pendant la grossesse. Donc, comment on sent en deuxième trimestre, ce n'est pas toujours la même chose qu'en troisième trimestre. Fait que de donner les pistes, là, de repérer s'il arrive un point où ça ne convient plus, là.
Est-ce que de faire affaire peut-être avec une kinésiologue ou un entraîneur justement qui pourrait travailler de connivence avec le ou la physio, ça peut être un bon combo justement pour se préparer physiquement à l'accouchement?
Tout à fait. T'sais, je pense que plus on a de professionnels de la santé qui sont bien formés dans le domaine de la périnatalité, bien dans le fond, on a une équipe autour de soi pour si on a des inquiétudes, si on n'est pas certain comment le faire, comment adapter notre activité physique, donc d'aller chercher les professionnels qui, bien, eux, font ça tous les jours, et bien certainement que c'est un grand avantage, là.
Là, on va parler des fameuses déchirures, hein, parce que, bon, c'est, je pense, la bête noire de toutes les femmes enceintes et qui pensent à leur accouchement. Mon Dieu, je veux pas déchirer. On entend des histoires, j'ai déchiré de bord en bord. Puis tu te dis, mon Dieu, moi, je veux pas que ça m'arrive. Puis un des moments que j'ai vraiment aimé en rééducation périnéale, et lorsqu'est venu le temps aussi de pousser lors de l'accouchement, ça a été vraiment la façon de respirer. Je pense le dernier mois avant 36 semaines à peu près, justement, avec ma physio, on a fait des exercices de respiration, comment bien respirer lors de la poussée. Puis j'ai tellement pris ça à cœur que quand mon obstétricien est arrivé justement pour me faire faire ma poussée, là, j'étais comme, OK, là, j'ai fait mes devoirs, je veux bien faire les choses et je veux vraiment mettre en application la théorie que j'ai eue. Est-ce que vous faites ça avec tous vos patients, ces exercices-là de respiration en vue de l'accouchement?
C'est certain qu'au niveau des évidences scientifiques, ça reste limité, là, l'étendue des approches puis des techniques qu'on peut faire qui vont réellement avoir un impact sur le risque de déchirure. Okay. Ça peut être sur d'autres choses, hein, l'expérience de l'accouchement, la vitesse de l'accouchement, la récupération, l'incontinence. Donc, il y a plein de facteurs que de mettre en place différentes techniques peuvent être influencées. Mais si on parle des déchirures seules, la science démontre vraiment de manière constante que c'est les techniques de massage périnéal qui sont efficaces pour la prévention des déchirures ou de la sévérité de la déchirure. Fait qu'il y a plein de raisons là, pour faire ces autres approches-là, mais si on se concentre vraiment sur la déchirure, les impacts au niveau scientifique là, sont, disons, peut-être plus contestables.
OK. Bien, ça dépend, en fait, si on parle d'une... déchirures quand on inclut toutes les déchirures. Oui. Mais nous, on va parler surtout des déchirures périnéales, mais on peut avoir des déchirures hautes, là, des structures, là, des grandes lèvres, des petites lèvres, des déchirures plus internes. Ce qui fait généralement plus peur aux patientes, là, ça va être des déchirures qui atteignent au niveau du sphincter anal. Donc, on a au niveau périnéal 4 degrés de déchirure, soit seulement la muqueuse, l'approche des muscles ou l'approche du sphincter. Puis on reclassifie notre troisième degré là, selon l'atteinte du sphincter externe ou interne. Mais à ce moment-là, c'est vraiment les données sont un peu plus là, sur ces déchirures périnéales-là avec l'atteinte du sphincter. C'est ce qui est de plus en plus, Stéphanie parlait, là, dans la prévention, ce qu'on essaie de prévenir le plus parce que c'est ceux qui vont avoir un peu plus d'atteinte, plus de difficultés au niveau de la récupération, plus de conséquences là, dans le futur au niveau de la douleur aux relations sexuelles, de la récupération, de la douleur, des saignements dans la période postpartum immédiate. Le corps est fait pour, je suis souvent patiente, le corps est fait pour bien récupérer là, au niveau de cette région-là. Donc, les petites lacérations superficielles, les premiers degrés, à la limite les deuxièmes degrés qui, oui, impliquent là, la musculature, vont généralement très bien récupérer. Fait que la peur, la hantise des patientes là, vont toucher plus l'atteinte là, au niveau troisième, quatrième degré quand on parle du sphincter. Là. Puis comme Stéphanie en parlait, il y a beaucoup de choses qui sont essayées et tentées et étudiées pour essayer de prévenir ces déchirures-là. Puis effectivement, il n'y a pas beaucoup d'évidence là, au niveau scientifique là, pour les approches quelconques, même si on les fait quand même. Il y a plusieurs choses qui sont faites, là, mais il semble avoir juste le comme on parlait du massage le périnéal, là, qui pourrait diminuer l'incidence au niveau des lacérations.
Puis ça se fait en rééducation périnéale, en préparation à l'accouchement, ce massage-là, c'est ça?
Bien, en fait, ça se fait à domicile de façon plus quotidienne, je dirais, quelques fois par semaine, pendant les dernières semaines, là, avant l'accouchement. Donc, souvent, on va recommander vers la 34e semaine de gestation là, de débuter les techniques. Les évidences ne montrent pas que c'est plus efficace de commencer des semaines et des semaines avant. C'est vraiment dans les dernières semaines. Je pense avec les changements hormonaux, les techniques ont peut-être davantage d'impact sur le tissu. Donc, on les recommande vers 34 semaines. C'est certain qu'en rééducation périnéale, on va toujours bien les démontrer, les expliquer à chacune des patientes, mais c'est vraiment le travail à la maison qui va faire que la préparation, elle est là.
Y a-t-il des prédispositions physiques qui vont faire en sorte qu'en tant qu'obstétricien, obstétricienne, on va le voir tout de suite que, bon, cette femme-là a plus de risques de déchirure ou ça n'a juste aucun rapport?
Non, ben il y a les facteurs de risque au niveau du bébé, de l'accouchement. Bon, quand on parle de macrosomie, les bébés d'un certain poids qui vont avoir un impact. L'instrumentation aussi peut avoir un impact qu'on va discuter peut-être tout à l'heure. Ça peut, c'est sûr, ça va faire partie des facteurs de risque. Oui. Mais oui, les gens n'ont pas tous les mêmes tissus. Là. C'est sûr qu'il y a des évités. Au départ, oui, il y a une prédisposition quelconque là, au niveau de l'élasticité des tissus, de la longueur aussi au niveau du périnée. Là, les gens n'ont pas toutes la même longueur au niveau du périnée, donc plus de tissu, plus de place. C'est sûr que ça a un impact aussi. Mais est-ce qu'on peut vraiment prévoir, prédire, savoir? On peut avoir une idée d'eux, mais c'est sûr qu'on ne le sait pas là, tant qu'on n'est pas dans les dernières minutes là, avant la naissance. Là,
Puis y a-tu des contextes de quelqu'un qui est plus en forme a moins de chances que ça arrive ou quelqu'un qui est plus en forme physiquement? Ça a-tu un lien? Est-ce qu'on peut faire un lien avec la forme physique ou même pas? Non.
Pas à ma connaissance. Non. Je connais pas toutes les évidences scientifiques là-dessus, mais j'ai jamais rien vu là, à cet égard-là. Toutefois, on entend, je sais pas si c'est un peu ça aussi à laquelle vous voulez faire référence, mais on entend souvent le fait aussi, les personnes très en forme sont très musclées, le plancher pelvien ne sera pas assez élastique, faut pas faire d'exercice des muscles du plancher pelvien. On entend souvent ce mythe-là qui est, dans le fond, pas du tout soutenu par les évidences. Donc, c'est pas parce qu'on a une bonne musculature puis qu'on est en forme que nécessairement le plancher pelvien aura pas la souplesse nécessaire lors de l'accouchement. Là. Donc, ça, c'est un mythe qu'on entend souvent, mais qui est pas soutenu. soutenu là, okay. scientifiquement.
Je l'avais entendu.
Oui.
Ça me rassure. Docteur Laflamme, vous parliez d'épisiotomie. Qu'est-ce que c'est que ce terme-là qu'on entend, mais qu'on définit difficilement?
Oui, qui fait souvent partie des choses que les patientes ont des mauvaises pensées ou des mauvais présages là, de l'épisiotomie. L'épisiotomie, jadis, il y a bon, plusieurs années, était faite là, de façon très, on appelle une épisiotomie médiane, donc une coupure littéralement là, entre le vagin et l'anus pour laisser de l'espace pour la sortie du bébé. Les dernières années, vraiment, il y a beaucoup d'évidences qui ont été mises en place comme quoi on devrait changer notre façon de faire l'épisiotomie et que ce soit vraiment en oblique, qu'on appelle une épisiotomie okay. médiolatérale, pour éviter de prévenir les déchirures au niveau du sphincter, de la tête au niveau du sphincter. Puis l'épisiotomie a beaucoup évolué dans sa façon de faire puis dans son incidence aussi là, dans les dernières années. Il y a plusieurs années, là, surtout avec les instrumentations, là, il y avait des épisiotomies qui étaient pratiquées là, de façon
automatique
okay. exactement. Puis avec les années, ça a beaucoup, beaucoup diminué là, le taux d'incidence au niveau des épisiotomies. Mais dans certains contextes, dans certaines situations, là, ça va vraiment encore permettre d'éviter les lacérations au niveau du sphincter. Donc, ça ne devrait pas être abandonné. Là. Puis même avec l'instrumentation, entre autres, quand on a besoin de l'utiliser là, au niveau des ventouses, des forceps, les évidences montrent vraiment que dans certaines circonstances, il y a eu beaucoup, beaucoup d'abandon d'épisiotomie, mais que si on continuait, si on l'utilisait, oui. on aurait un petit peu moins de lacérations au niveau du sphincter. En autant qu'on le fasse, une épisiotomie médiolatérale.
Oui. Ouais. Puis ça, mettons, en pleine action, en plein accouchement, ça, est-ce que c'est nommé du médecin que, bon, je suis en train de faire une épisiotomie ou finalement, la femme qui est en train d'accoucher ne le sait pas ou...
Ben non, je pense que comme toute action au niveau médical, c'est oui. super important que la patiente soit au courant. Le médecin est dans la salle, le médecin est avec la patiente, oui. le médecin, on est proche. C'est facile là, de communiquer à ce moment-là, de l'expliquer à la patiente le pourquoi. Mm-hmm. Des fois, c'est sûr, les patientes peuvent avoir une crainte, peuvent avoir une peur là, par rapport à ça. Sincèrement, je pense que les patientes ont beaucoup de craintes le avant, mais quand on se retrouve au moment où on le fait, avec la douleur, avec le contexte, généralement, ça passe assez bien. Là, les patientes, en général, moi, je comprends très bien quand je le fais, pourquoi je le fais, oui. Mais c'est sûr qu'il faut avoir des explications.
Oui.
Faut expliquer à la patiente pourquoi on le fait. Mais ça se fait bien.
Puis j'imagine que c'est la même chose aussi pour l'instrumentalisation, donc l'utilisation d'autres objets pour faciliter l'accouchement?
Oui, mais il y a beaucoup de craintes aussi au niveau de l'instrumentation, effectivement. Ce qu'il faut comprendre au niveau de l'instrumentation, c'est que c'est fait vraiment à la toute fin, quand on est rendu à dilatation complète, quand on est rendu à pousser. Il y a certaines circonstances qui vont faire qu'on a à utiliser l'instrumentation, entre autres les trois catégories. Là, la patiente peut totalement avoir une contre-indication à pousser, la contre-indication à la manœuvre de Valsalva qu'on appelle, là, certaines conditions médicales. Il peut y avoir aussi parce que la patiente il y a une certaine fatigue maternelle, ça fait longtemps qu'elle pousse, il n'y a plus de descente, puis nous, on considère vraiment là, qu'il y a un bon potentiel pour la sortie du bébé. Ou ça peut être dans l'urgence de la situation parce que le bébé a des décélérations au niveau de son cœur, puis que la sortie doit être accélérée, puis uniquement par les poussées maternelles, c'est pas suffisamment rapide. Donc, c'est sûr que cette instrumentation-là existe, mais son but premier est d'éviter une césarienne. Hein. C'est ça qu'il faut oui. comprendre parce que quand on est rendu avec une dilatation complète, un bébé qui est tout prêt de sortir et que l'urgence est là, c'est la seule façon de sortir un bébé oui. par voie vaginale. Hein? Puis il y a eu une certaine époque où il se faisait énormément de forceps. Les patientes avaient une certaine anesthésie, là, étaient à peu près plus conscientes. Puis les bébés sortaient tous par forceps, là, okay. cette époque-là. Maintenant, c'est vraiment quand on compare l'instrumentation à l'accouchement vaginal qui est spontané, mais il faut comprendre qu'il faut le comparer plutôt à une césarienne qui serait faite oui. de façon urgente à dilatation complète. Donc, c'est vraiment pour s'épargner cette chirurgie-là.
Puis j'imagine justement qu'une chirurgie ou l'utilisation d'instruments, c'est pas nécessairement le plan idéal d'une maman qui s'en va accoucher, tu sais, qui a préparé son mentalement, qui a préparé son accouchement, parce qu'évidemment, on se fait des scénarios. Comment on peut le mieux possible se préparer à un accouchement? Tu sais, parce qu'on a des idéaux, mais des fois qui peuvent changer en cours de route. Ce serait quoi la meilleure façon de se préparer? Ce serait-tu de ne pas se préparer? J'ose le dire, là, mais...
On le dit souvent, là, que plus on a d'attente et plus ça se passe pas comme on voudrait. C'est sûr que les fameux plans de naissance, là, si on en parle, là, mm-hmm. des plans de naissance, relatent beaucoup de choses qui peuvent arriver. Puis effectivement, en obstétrique, tout peut arriver.
Oui.
Puis c'est ça qu'il faut comprendre avant tout, je crois. Là. La préparation à l'accouchement est super importante à plusieurs niveaux. On parlait du niveau physique, on parlait du niveau de la musculature, au niveau de comprendre qu'est-ce qui peut arriver, mais de comprendre aussi tous les aspects de qu'est-ce qui peut se passer, mm-hmm. Comment ça peut finir, c'est quoi les possibilités, l'instrument en fait partie, la césarienne en fait partie, hein, parce que les césariennes, c'est quand même très, chez les gens, les primipares qu'on appelle, donc les premières grossesses actuellement, le taux de césarienne ici est presque 25 à 30.
Ah oui!
Okay. Fait, il faut se préparer mentalement à l'idée que ça peut arriver, puis si ça arrive, ça peut arriver, qu'on a le temps d'en parler tranquillement parce que le bébé va bien, mais ça peut arriver rapidement, qu'on est un petit peu plus pressé par le temps là, pour expliquer la situation. Donc, la préparation à l'accouchement, c'est super vaste. Ça passe par comprendre qu'est-ce qui peut arriver, comprendre qu'est-ce qui peut savoir à quoi s'attendre. Ça passe aussi par l'exercice physique, la préparation du corps. Puis, il y a le côté mental. Mais effectivement, c'est sûr que les patientes... devrait-elle avoir des attentes ou non? C'est difficile. Je pense qu'il ne faut pas trop avoir d'attentes en obstétrique. Je dis toujours aux patientes, on ne sait pas qu'est-ce qui arrive en obstétrique. On ne peut jamais prévoir. On peut avoir une idée de quelque chose, mais ça peut toujours tourner d'une autre façon. Fait qu'effectivement, il faut être ouvert. Il faut avoir l'esprit ouvert pour les accouchements.
J'ai quelquefois entendu... J'ai écouté beaucoup de récits d'accouchement. Moi, je suis une genre de passionnée de ça. Là, puis j'ai entendu beaucoup l'histoire de mon plan de naissance. Il est resté dans mon sac et dans ma valise. Finalement, je ne l'ai jamais sorti. Puis c'est allé... on a fait ça, go with the flow. Puis finalement, tu sais, ce sont de super beaux récits malgré le fait que le plan n'a pas nécessairement été respecté selon ce qui avait été imaginé durant la grossesse. J'entends parler de césarienne. Est-ce que ça se peut que la femme veuille avoir absolument une césarienne, que pour elle, accoucher de manière vaginale, ça ne l'intéresse pas, tout simplement pour des raisons X? Ça se peut-tu, ça, vouloir une césarienne d'entrée de jeu?
Oui, des césariennes sur demande. Je peux pas. Il y a probablement des gynécologues qui n'acceptent pas d'en faire, là, mais en fait, oui, ça se demande et probablement qu'il y en a de plus en plus. Ce qui est très important, c'est qu'à ce moment-là, il y ait vraiment une discussion avec la patiente, là, détaillée, que la patiente comprenne vraiment, vraiment les risques chirurgicaux associés à sa demande. Généralement, nous, dans notre pratique, là, on va faire rencontrer la patiente par un autre gynécologue pour qu'il y ait vraiment deux discussions mm-hmm. séparément avec deux médecins pour avoir discuter, mais il faut vraiment, vraiment bien comprendre là, l'ensemble des risques à faire une césarienne d'emblée là, pour cette patiente-là.
Moi, je me suis longtemps entêtée à vouloir accoucher sans avoir accès à la péridurale. Et bon, finalement, c'est pas ça qui est arrivé. Fait que moi aussi, mon plan de naissance a changé en cours de route. Puis une des questions que je me posais en me disant, bon, mettons que finalement, je décide de prendre l'épidurale, est-ce que je vais moins bien pousser? Est-ce que mon corps va être plus affecté étant donné que je ne le sens pas? Ça pourrait-tu affecter justement mon périnée? Y a-tu un mythe? Y a-tu des vrais ou faux par rapport à ça? Est-ce que d'accoucher de manière complètement naturelle ou avec l'épidurale, ça change quelque chose?
Bien, ça, c'est une bonne question quand même parce que si on regarde ce qui existe vraiment dans les données scientifiques, on regarde, par exemple, des accouchements avec différentes positions, est-ce que ça va avoir des incidences? Puis ça peut avoir des incidences sur des facteurs très différents. Et une position va faire que la descente du bébé est plus rapide, mais ça va avoir plus de trauma au niveau des muscles du plancher pelvien. Donc, T'sais, il y a toujours comme deux côtés à la médaille, peu importe ce qui se passe. Dans le fond, une des choses qu'on essaie le plus possible, je pense, de favoriser, c'est un accouchement qui, si possible, et reste mobile, où la personne, je pense, reste en contrôle de ses moyens, peut sentir un peu ce qui se passe. Mm-hmm. Puis avec les années, c'est certain qu'au niveau de l'anesthésie, c'est beaucoup plus précis. Donc, on voit moins ça. Je pense que les femmes qui sont gelées du diaphragme jusqu'au bout des orteils, là, donc ça leur permet quand même de garder un certain contrôle sur la situation puis de pouvoir vivre l'accouchement vaginal tel que souhaité. Là. Fait que je pense qu'ils restent un petit peu plus en contrôle là, de ce qui se passe. Là.
Et continuons vers la suite des choses lorsque l'accouchement est fait. Petite parenthèse, OK, docteur Laflamme. Moi, je me rappelle quand j'ai accouché, l'obstétricien qui était là, il était tellement passionné, puis il avait tellement l'air de vouloir que je vive l'expérience avec lui. Il m'a dit, ouvre les yeux, tiens, elle arrive. Puis là, j'étais comme super excitée, parce que moi, je poussais avec les yeux fermés, j'étais vraiment concentrée. Je veux avoir votre feeling lorsque le bébé arrive, là, peu importe l'accouchement. Est-ce que vous avez un sentiment de fierté ou d'accomplissement dans, justement, là, dans vos fonctions, finalement, d'obstétricienne?
Oui, bien, l'obstétrique, c'est sûr que c'est beau, hein? On dit souvent, l'obstétrique, c'est souvent beau, mais quand ça va mal, ça va vraiment mal. Ouais. Mais oui, c'est certain que c'est un beau moment qui fait partie de la médecine. Nous, souvent, il y a beaucoup de gens malades, tout ça. Puis bon, ben nous, on a quand même une grosse partie de l'obstétrique où les gens sont en bonne santé, où on a des beaux petits bébés tout en forme. Fait que oui, effectivement, c'est sûr, à chaque naissance, c'est encore beau, même si on en a fait plusieurs milliers. Là, c'est encore beau à chaque fois, effectivement. Puis on veut que les patientes vivent bien leur naissance aussi.
C'est très, très bon. En tout cas, moi, c'est une expérience que j'ai tellement bien vécue. Puis, justement, grâce au médecin qui m'a accouchée, bien, puis aussi à la physio qui m'a suivie avant et après, là, j'ai vraiment adoré mon expérience. Fait que j'espère que c'est comme ça pour, en tout cas, la plupart de vos patients et vous, en tant que médecin aussi, de donner naissance à autant d'enfants. Poursuivons après l'accouchement, justement, le postpartum, parce que ça fait vraiment partie du processus. Hein? C'est pas parce qu'on a accouché que là, hop, notre corps reprend sa forme et pas pantoute. Donc, Stéphanie, je voulais voir avec vous, c'est quoi le rôle d'une physiothérapeute en rééducation périnéale, justement, dans le postpartum?
Donc, c'est certain que lorsqu'on voit nos patientes en postpartum, bien, on veut vraiment réévaluer où elles en sont, quelle est l'étendue des dommages, si on veut, ou peut-être qu'il n'y en a pas. Mais une chose est certaine, qu'on ait eu une césarienne ou un accouchement vaginal, tout le monde a été enceinte. Puis, juste ça, le poids du bébé, le long marathon, tu sais, de la grossesse, ça laisse quand même certains impacts sur la musculature. Puis, on voit quand même dans les études que le plancher pelvien, si on ne fait rien, un an après, il va rester avec des déficits qui ressemblent si on regarde au niveau de l'endurance, la force, qui sont quand même assez importants. Là, il va récupérer peut-être spontanément environ 50 % de sa capacité musculaire. C'est pas beaucoup quand même. Donc, on a un rôle, je pense, important à s'assurer qu'on encourage les gens à faire leur récupération musculaire. Donc, d'évaluer la situation, voir s'il y a des déficits qui sont plus importants, mais d'encourager aussi les gens qui n'en ont peut-être pas des déficits majeurs, des traumas, des déchirures, mais qu'on fait quand même nos exercices du plancher pelvien. Il faut récupérer ces déficits-là qui ont été au moins minimalement affectés par la grossesse elle-même. Donc, tu sais, typiquement, on ne va pas nécessairement voir les gens immédiatement après l'accouchement. On est dans une phase inflammatoire où le tissu se guérit. Le tissu, il a son travail à faire là, pour récupérer spontanément. Puis après quelques semaines, là, mais là, s'il y a des choses qui persistent, mais on est là pour les évaluer, les dépister, puis donner un plan de match là, pour la récupération.
C'est quoi les risques associés à une reprise d'une activité, mettons, physique trop intense rapidement après l'accouchement ou tout simplement des gestes, juste, mettons, je sais pas, moi, je veux faire mon ménage, là, mais je suis vraiment crinquée parce que, bon, je veux que ma maison soit propre pour mon petit bébé, mais là, bon, après un accouchement comme ça, le corps n'est pas nécessairement prêt. C'est quoi les risques associés au corps après l'accouchement?
Bien, dans le fond, quand on parle de muscles, là, souvent, je donne à mes patientes l'analogie, c'est comme si tout à coup, je décidais, j'ai jamais couru de ma vie, puis là, je vais aller faire 5, je vais aller faire 10 kilomètres. Bien, ça va être dur sur nos genoux, ça va être dur sur le dos, sur les hanches. hanche. Donc, notre corps n'est pas préparé pour l'effort qu'on lui demande de faire. Donc, qu'est-ce que ça mène? Bien, ça mène à des blessures musculaires, ça mène à des douleurs, ça mène à des symptômes. Donc, si je demande à mon plancher pelvien de faire un travail qui n'est pas prêt à faire, donc qui est au-delà de sa capacité, que je n'ai pas fait un retour progressif pour qu'il se réadapte à cet effort-là, bien, il ne pourra pas faire son travail adéquatement, que lui, c'est de soutenir les organes, que c'est de s'assurer de, qu'on reste continent. Donc, il va avoir de la difficulté à faire ce travail-là. Donc, on va développer des symptômes. Ça ne sera peut-être pas de la douleur comme une douleur au genou, mais ça peut être des fuites urinaires, ça peut être des fuites fécales, ça peut être des descentes d'organes. Évidemment, on ne parle pas d'une sortie ou deux. Il ne faut pas non plus que tout le monde ait peur de bouger après l'accouchement. Mais si j'en demande beaucoup trop à ma musculature puis qu'elle n'est pas préparée pour ça puis que je répète et je répète, bien, c'est là qu'à un moment donné, il va s'épuiser puis on va faire face à des symptômes.
Quelqu'un qui est moindrement sportif, comme moi qui pratique la course à pied, qu'est-ce qui va faire en sorte que là, on va avoir le go de notre physio pour pouvoir reprendre nos entraînements de course à pied qui demandent quand même un certain impact sur le corps? Qu'est-ce qui va déterminer là, que là, on peut y retourner?
Bien, dans le fond, ça, c'est vraiment une bonne question, puis on se la fait demander beaucoup, beaucoup, puis il n'y a pas réellement des critères bien établis sur lesquels tout le monde s'entend pour dire « Ah, ça prend ça au minimum pour pouvoir commencer à faire de la course à pied, pour commencer à faire de l'haltérophilie ». Les critères spécifiques, ils n'existent pas. Il faut vraiment y aller progressivement et être capable de franchir les étapes de progression sans symptômes. C'est un peu la règle d'or. Moi, je vais recommander, dans le fond, la course à pied si je suis capable d'au moins faire un 30 minutes de marche rapide sans symptômes. Ensuite, on va commencer des intervalles. S'il n'y a pas de symptômes, bien, on va y aller progressivement. Donc, c'est de s'écouter, c'est d'aller progressivement et, bien entendu, de faire nos exercices des muscles du plancher pelvien parce qu'on le sait qu'après la grossesse, ils ont un déficit certain qui peut être plus grand suite à l'accouchement, mais minimalement, il y a un déficit associé à la grossesse. Donc, il faut y aller progressif pour qu'ils puissent s'adapter à la course à pied ou à ces autres efforts-là. Je ne peux pas demander à mon plancher pelvien d'être capable de courir si je ne le fais pas courir. Donc, il faut qu'il apprenne à travers l'activité. Puis la clé, c'est vraiment la progression, puis l'écoute des symptômes, là.
Est-ce qu'une personne qui est physiquement en forme avant d'accoucher va se remettre mieux de son accouchement? Ou ça, je l'ai entendu aussi beaucoup, là. Est-ce que c'est un mythe ou c'est vrai?
Bien, je dirais que c'est assez vrai. Quelqu'un qui a pu être actif dans la grossesse va, dans le fond, au niveau de son énergie, sa capacité musculaire, sa capacité cardiovasculaire, va certainement être prêt plus rapidement que quelqu'un où ces systèmes-là ont plutôt se sont détériorés pendant la grossesse. Peut-être qu'il y avait des restrictions en lien à sa condition médicale. Là, il y a toutes sortes de raisons, pas seulement la sédentarité, mais quelqu'un qui a pu être actif jusqu'à la fin, bien entendu, son corps est plus prêt à être actif là, tout de suite après, là.
Durant l'accouchement, il y a une panoplie de gens qui visitent la chambre dans laquelle on est. Des infirmières, je pense à des préposés, celui qui ou celle qui fait la péridurale au besoin, c'est quoi son nom?
Anesthésiste,
exactement. Bon, médecin et tout et tout. Comment on peut faire pour se démêler ou en tout cas du moins se sentir encadré et pas perdu à travers l'accouchement avec tout ça? Ce beau monde ultra qualifié là, qui s'occupe de nous.
Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui peuvent être présentes. Si on parle, exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, bien là, actuellement, les accouchements se passent au centre de Saint-François-d'Assise, à l'hôpital de Saint-François-d'Assise ou au centre mère-enfant du CHUL. Donc, généralement, on va avoir des qu'on appelle étudiants avec nous. Là. Autant les médecins de famille que les gynécologues obstétriciens ont généralement des résidents, des externes et les infirmières ont elles aussi des fois des stagiaires avec elles. Typiquement, dans la salle d'accouchement, les infirmières vont être en accompagnement avec la patiente à partir du moment où les patientes reçoivent soit une stimulation à l'ocytocine ou quand les patientes ont une péridurale. Donc, à ce moment-là, l'infirmière est en permanence presque là, avec la patiente. Pour les soins médicaux, à ce moment-là, il va avoir effectivement le gynécologue ou le médecin de famille. Il va avoir son ou sa résidente et parfois un ou une externe. Donc, c'est un peu un continuum là, au niveau de la formation. quand on fait notre formation en médecine, on commence par les cours théoriques. Ensuite, on fait notre externat, qui est un peu un ensemble de stages dans diverses spécialités. Là, pour faire, on ne fait pas le tour, évidemment, mais on en voit quelques-unes. Donc, c'est là qu'on est externe. Donc, on n'a pas on est encore en apprentissage, effectivement, là, mais on doit être exposé là, à plusieurs situations. Puis, une fois l'externat terminé, c'est là qu'on va choisir notre domaine d'études. Donc, on devient résident en spécialité ou on devient résident en médecine familiale. Donc, les résidents sont des médecins qui ont le droit de prescrire, qui ont le droit de poser plusieurs gestes médicaux. Moi, je pense généralement à l'obstétrique gynécologie parce que c'est par le cheminement que je suis passée. Les résidents en gynécologie obstétrique sont très présents là, actuellement dans les centres hospitaliers pour les accouchements. C'est généralement eux que la femme enceinte qui arrive au département vont rencontrer. C'est eux qui vont faire la plupart des examens, la plupart des manœuvres et l'accouchement la plupart du temps aussi. Faut comprendre qu'il faut en faire plusieurs pour devenir un gynécologue obstétricien. Généralement, dans notre formation, on va terminer la formation avec au-dessus d'un millier d'accouchements de faits vaginales. Donc, encore plus. Si on compte les césariennes, donc on en fait plusieurs. Le gynécologue obstétricien ou le médecin superviseur là, est toujours en supervision, évidemment. Donc, les gestes qui vont être posés par les étudiants, les gestes qui vont être posés par les résidents sont toujours faits là, en connaissance de compte, en sachant qu'ils sont capables de le faire. Effectivement, au courant de l'accouchement, au courant du travail, là, s'il y a une péridurale, là, l'anesthésiste va venir pour la péridurale. Il peut, là, encore une fois, avoir un résident. Les externes, il y en a là, des externes en anesthésie, mais qui viennent peut-être un petit peu moins souvent pour les péridurales en tant que telles, qui vont plus jouer un rôle d'observation. Mais les résidents, encore là, sont très bien formés là, pour faire les péridurales. Donc, il va y avoir eux qui vont être dans la salle. Puis, pour l'accouchement, généralement, il va y avoir une infirmière supplémentaire qui va être là aussi là, pour la réanimation néonatale, si jamais il y avait, il y en avait une.
Et puis, ben là, ça aussi, c'est mélangé avec les changements de chiffre. Tu sais, que l'infirmière qui finit son. Tu sais, elle restera pas avec nous tout le long de l'accouchement, même si on l'aime beaucoup puis qu'elle nous aime beaucoup. À un moment donné, il faut qu'elle change. Fait que souvent, il va y avoir une rotation aussi au niveau du personnel. Mais honnêtement, là, je vais parler en tant que maman, là, en tant que patiente. Là, le personnel hospitalier est tellement merveilleux. Là, tu sais, puis là, je vous lance des fleurs, mais je dois pas être la première qui vous dit ça. Là. Mais le personnel hospitalier fait tellement en sorte que, en tout cas, l'expérience. Malgré les craintes qu'on peut avoir, malgré toutes les petites questions, là, se fait en tout cas beaucoup plus facilement que ce à quoi on s'imagine. Et là, il y a une question qui me trotte en tête depuis toujours. Est-ce qu'on dit épidural ou on dit péridural?
Les deux termes sont acceptables.
D'accord. Ça, je me demandais s'il n'y en avait pas un qui était plus tiré de l'anglophone ou...
Ah, peut-être, j'avoue. Hein, moi, je n'ai pas une réponse d'anesthésiste, mais les deux termes signifient la même chose. En fait, l'injection se fait au pourtour de la dure-mère, donc épidural.
OK, d'accord. Et puis là, je vous pose la question, je ne sais pas si vous êtes mère de famille ou en tant que professionnelle, diriez-vous qu'une chambre privée à l'hôpital, avoir sa chambre à soi, au lieu de la partager peut-être avec une autre famille qui vit un accouchement, est-ce que c'est un luxe ou ce serait nécessaire? Ou le conseil que vous auriez à donner, selon vous, en tant que mère ou en tant que professionnelle? Parce que je ne sais pas si vous avez des enfants.
C'est une bonne question. On a des enfants tous les deux. Bien, ça dépend de chaque personne. Là, comment on le vit? C'est sûr que les séjours hospitaliers ont beaucoup, beaucoup diminué avec les années, avec l'effort de récupération plus rapide aussi. Les patientes qui subissent des césariennes sont mises sur pied là, vraiment plus rapidement. Oui. On fait des efforts pour les faire marcher plus rapidement, les faire récupérer plus rapidement. Donc, avec les accouchements vaginaux, généralement, là, les patientes vont quitter l'hôpital après 36 heures. Avec les césariennes, ça va être 36 à 48 heures maximum. Fait que c'est sûr que c'est pas un long séjour hospitalier là, en postpartum. Effectivement, c'est une période où on est très fatigué. Personne n'a les mêmes horaires. Les bébés mangent souvent. Les infirmières sont présentes. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de va-et-vient dans les chambres là, en postpartum. Il existe pas à ma connaissance. Moi, je suis à Lévis. Là. À Lévis, nous autres, on n'a pas de chambre de plus que deux, là, mais je pense pas non plus au CHUL ou à Saint-François qu'il y ait des chambres à plus que deux patientes, mais il faut penser qu'il y a de la cohabitation. Mm-hmm. Fait qu'une maman, ça signifie une maman, un papa, un bébé. Fait que ça fait quand même beaucoup de monde. Pendant la COVID, il y a eu une restriction au niveau des visites. Là, c'est revenu pas mal comme c'était avant. Fait qu'on essaie que ça, qu'il y ait le plus possible de respect là, au niveau des visites. Mais des fois, il y a des familles qui sont plus nombreuses et présentes. Fait que ça dépend vraiment de chacun là, à quel point on vit bien ça, là, d'être dans notre petit cocon ou de préférer être plus en privé ou non. Là. Je pense que c'est une préférence personnelle.
Moi, je pense que c'est pour nous habituer à ne pas dormir.
C'est apprendre à la dure.
Voilà.
C'est quoi l'avenir quand on parle, l'avenir de vos professions? Est-ce que vous voyez qu'il y a encore du travail à faire ou encore avez-vous un message à passer justement à ceux qui écoutent le balado quant à l'avenir de la santé périnéale, santé gynécologique?
Mais on en a parlé un petit peu au début de l'entrevue là, par rapport à la popularité grandissante là, au niveau de la physiothérapie périnéale. Puis, comme obstétricien gynécologue, je le vois un peu, qui y va pas. Puis quand j'ai commencé ma pratique, je dirais qu'il y avait beaucoup moins de patientes qui étaient au courant, qui étaient renseignées sur la physiothérapie périnéale. J'en ai de plus en plus qui vont prendre les devants, qui vont y aller par elles-mêmes. Fait que c'est vraiment super intéressant. Là. Puis je pense qu'il faut que ça continue dans cette voie-là. Il faut que les médecins aussi, accoucheurs, influencent positivement les patientes à y aller, montrent l'importance d'y aller aussi. Fait que ça, c'est super bien. Là. Puis je pense qu'on est vraiment sur une pente montante là, pour la popularité de ça. Là. Fait que ça, je pense que c'est une bonne piste. Puis sinon, si on va plus loin, je pense que... L'avenir, c'est difficile à dire. Là. Il y a beaucoup d'hypermédicalisation dans tous les domaines. C'est la même chose en obstétrique. En même temps, il y a beaucoup le côté de retour aux sources. Oui. Et tout le côté nature au niveau de l'accouchement, là, c'est très, très, très présent. Donc, c'est vraiment deux...
Il y a une tendance vers...
Oui, il y a comme deux façades. Là, beaucoup de gens qui veulent beaucoup ça, le plus naturel possible, comme ils appellent, puis d'autres qui sont très... On parlait de césarienne sur demande tout à l'heure. Fait que, tu sais, c'est vraiment deux opposés, là. Fait que c'est difficile de dire vers où on s'en va. Il y a toujours la recherche qui avance aussi sur l'induction du travail, les situations, tout ça. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce qu'on devrait tant laisser aller les choses? Est-ce qu'on devrait induire le travail plus tôt? Fait que ça aussi, là, il y a beaucoup de percées là-dessus, là. À suivre.
Oui, à suivre. Quand je pense à la physiothérapie, peut-être dans l'avenir, bien, il y a certains, je pense, pays là, à l'échelle internationale qui sont une place intéressante où le physiothérapeute en rééducation périnéale est vraiment un membre de l'équipe obstétricienne, d'obstétrique. Elle va être là sur place, va être là à l'hôpital, va être plus impliquée dans le processus pendant le travail, sur la récupération après, donc de pouvoir donner les conseils après l'accouchement, avant le départ de l'hôpital. Donc, c'est certain que si je regardais ça de façon optimiste, est-ce que, dans le fond, on pourrait même être plus impliqué plus tôt dans la grossesse, peut-être décharger un peu aussi les infirmières sur certains, quand on parle d'activité physique, de parler, donc de faire du travail de prévention davantage. Ça serait le fun que les physiothérapeutes soient plus proches, finalement, de l'équipe d'obstétrique puis de pouvoir travailler en équipe. Je pense qu'au final, c'est vraiment les patientes qui vont en bénéficier le plus, là. Comme ça, tout le monde aurait accès à cette information-là, à cette ressource-là, parce qu'actuellement, bien, la plupart des physiothérapeutes travaillent dans le milieu privé. Donc, ça veut dire que c'est seulement disponible ou accessible pour certaines plus privilégiées. Puis, dans le fond, si on parle de justice sociale en santé, certainement que d'avoir un physiothérapeute au sein même des équipes qui pourrait donner, finalement, son expertise à toutes, là, on aurait probablement des impacts plus larges là, sur plusieurs déterminants de la santé, finalement, là.
Si vous aviez un conseil à donner en tant que maman, à la future maman ou peu importe, la personne qui nous écoute en ce moment, ce serait quoi quant à l'accouchement à venir?
Bien, si je commence, moi, ce serait de se faire confiance un peu plus, de s'écouter, de prendre le temps de s'informer davantage pour pas justement avoir trop d'idées préconçues, mais mieux connaître ce qui va se passer sur l'accouchement. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour les femmes enceintes sur tellement de sujets, puis ça, on peut se sentir là, facilement dépassé par ça, mais d'y aller petit à petit, d'y aller plus tôt dans la grossesse, à s'informer petit à petit par rapport à l'accouchement, et puis, dans le fond, de se faire confiance. confiance, là, vraiment, d'écouter les sensations, puis de rester en mouvement. Je pense que ça, c'est super important d'être active dans la grossesse, de pouvoir rester active le plus longtemps possible, si c'est possible, là, pendant le processus de l'accouchement. Ce serait, dans le fond, probablement mon conseil de physiothérapeute.
Bien, c'est un bon conseil, puis je vais aller un peu dans la même veine, là, effectivement, d'avoir une certaine préparation à l'accouchement, de savoir un peu qu'est-ce qui peut se passer. Je pense que ça peut permettre de diminuer les craintes là, par rapport à tout ça. Poser des questions au fur et à mesure aussi, se renseigner. Il existe des cours prénataux, il existe beaucoup d'informations disponibles. Fait que d'aller chercher l'information, effectivement. De rester très active. Hein, les patientes ont beaucoup, beaucoup de craintes. J'ai énormément de questions au premier trimestre de la grossesse. Est-ce que je peux continuer à avoir des relations? Est-ce que je peux continuer à faire de l'exercice? Est-ce que les patientes ont beaucoup, beaucoup de craintes? Puis c'est super important. L'exercice, dès le départ, là, vont vraiment diminuer beaucoup l'hypertension gestationnelle, le diabète de grossesse, les gains de poids excessifs. Ça peut aider aussi pour les symptômes dépressifs. On en voit beaucoup, de plus en plus, là, d'anxiété chez les mamans. Mm-hmm. Beaucoup de prises d'anti-anxiolytiques. Je pense que tout ça va vraiment permettre aussi là, la préparation, à diminuer tout ça. Là.
Et ça m'amène à vous poser la dernière question de ce balado, la plus redoutée de tous les intervenants qu'on reçoit pour chacun des épisodes, puisque le balado s'intitule « Santé sans rendez-vous ». Si vous aviez à prendre rendez-vous avec quelqu'un, ça peut être une personne fictive, ça peut être une personne vivante, une personne qui est décédée aujourd'hui, n'importe qui, pas nécessairement relié à votre domaine, ce serait qui?
Bien, moi, j'irais autant avec ma curiosité de dans le temps, les accoucheuses d'il y a 500 ans, comment ça se passait, là, quand on avait vraiment des connaissances de base, puis tout ça, je serais vraiment, vraiment curieuse de voir comment ça se passait. Puis autant, on a parlé beaucoup là, du côté hyper-médicalisation là, versus le côté retour aux sources qui se confronte beaucoup en obstétrique. Donc, dans 150 ans, le gynécologue, dans 150 ans, comment ça va se passer à ce moment-là? Est-ce que c'est le côté médical qui va avoir pris le dessus? Est-ce que comment ça va se passer vraiment à ce niveau-là? Parce que l'accouchement va toujours rester l'accouchement. Hein? Donc, ces deux volets-là, je dirais vraiment autant le passé là, que le futur. Là.
Super intéressant, j'adore.
Moi, c'est pas une personne spécifique, mais bon, c'est peut-être mon côté intello là, et de recherche qui entre, mais je serais vraiment intéressée à aller discuter ou à étudier auprès de peut-être des aînés, des communautés autochtones, un peu leur vision par rapport à la grossesse et à l'accouchement. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on n'arrive pas à lire, puis à avoir des données intéressantes, puis on dirait que j'aimerais ça aller sonder et mieux comprendre un peu la vision de la femme enceinte, de l'accouchement, vu par leurs yeux, puis de voir de quelle façon on... Bien, qu'est-ce qui s'arrime avec nos pratiques, puis qu'est-ce qui s'arrime pas du tout, là. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais explorer, puis comprendre davantage.
Bien, mesdames, ça a été un plaisir. Stéphanie Bernard et Sarah Maud Bernatché, La Flamme, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode. Je pense que j'aurais jasé avec vous encore pendant des heures. À un moment donné, hein, toute bonne chose a une fin. Mais ce fut un réel bonheur d'échanger avec vous.
Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
Merci, ça fait plaisir.